Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Nicolas garde dans son portefeuille la photographie de son ami, beau et jeune d'avant son accident. Quelque chose lui dit que c'est de sa faute s'il a eu cet accident, parce qu'il lui avait dit qu'il voulait le quitter. S'il n'avait pas dit cela, ce serait rien passé et Mathieu serait en vie, beau et jeune. Il aime moins sa sœur, car elle aussi est coupable. À Lyon, ils sont reçus froidement par la famille, parce qu'elle a appris ce qui s'était passé en Amérique. France Dimanche a fait un article sur les amours tumultueuses d'un couple de Français chez une star américaine. Les amours avec le garagiste et l'accident de l'acteur. Deux jours après leur arrivée, le père convoque Nicolas à son bureau. Nicolas y va.
Entrez. Et assieds-toi.
Je t'ai fait venir, c'est pour savoir ce que tu comptes faire maintenant.
C'est pas vraiment. J'aimerais c'est faire des films, les mettre en scène. J'écris un scénario en Amérique et cela m'a beaucoup plu.
C'est bien. Fais du cinéma.
Oui, mais c'est un milieu très fermé et je ne sais pas comment y rentrer.
Moi non plus. Mais ne perds pas ton temps à savoir comment y rentrer. Fais quelque chose. Fais des études.
Non, père.
Je te donne un mois pour que tu trouves quelque chose. Si tu ne fais rien, je te mets à la porte.
Bien, père.
Nicolas cherche comment il pourrait entrer dans le monde du cinéma. Un matin, prenant le journal au bureau de tabac, il tombe sur une revue, le roman du cinéma. Il l'apprend. Une fois arrivé chez lui, il va dans sa chambre pour la lire tranquillement.
Ce n'est pas une revue comme les autres. Il n'y a pas de photographie et les articles sont longs. Lorsqu'ils parlent d'un film, ils en parlent d'un point de vue esthétique très intellectuel. Nicolas se dit, ils ne vont pas au cinéma pour s'amuser.
Une fois qu'il est fini de lire, il sort de sa chambre. Pour aller dans celle de sa sœur. Entrez. Elle est assise à son bureau à écrire. Il s'approche d'elle, la revue à la main. Il lui dit, je viens de découvrir cette revue sur le cinéma. Il la lui montre. Elle la prend, la feuillette. Puis elle lui dit, et alors ? Il parle des films d'une façon tout à fait particulière, esthétique. D'après eux, un film doit être fait d'une façon tout à fait libre, ne pas chercher à suivre un scénario mot à mot. Il faut de l'inspiration, ne pas faire du beau pour le beau, simple, comme dans la vie, mettre la caméra dans la vie, pas d'adaptation littéraire. La soeur fait la grimace et lui dit, ouf, je vois gauche caviar. Le cinéma, ce n'est pas de la rigolade, c'est du sérieux. Nicolas lui dit, tu as raison, mais ce sont ces gens-là plutôt qui connaissent des tas de monde, qui doivent les prendre au sérieux. Si j'arrive à entrer là-dedans et jouer leur jeu, j'aurai mes entrées dans le monde de l'art et du cinéma. Elle lui dit, ce doit être un cercle très fermé. Et pour se faire remarquer, ce ne sera pas facile, il lui dit, je n'aurai qu'à crier plus fort qu'eux, c'est-à-dire plus méchamment, avec le cinéma qu'ils attaquent. Tu vas aller voir le papier que je vais leur écrire. Mort au cinéma de papa, les Delannoy, les Larrand, les Clouseau, hop ! Sa sœur lui dit, comment vas-tu faire pour rencontrer ces gens ?
Je ne sais pas.
En relisant les articles, il voit qu'il parle souvent d'une salle d'art et d'essai où ils vont voir les films. C'est là où je dois les trouver. Il y va. La salle se trouve dans une impasse derrière la place des terreaux. C'est une petite salle d'à peu près 50 places. Il y a un homme qui fait tout, vend des billets et projectionniste. Il y a un hall d'entrée. Il y a des photographies sur le mur. C'est très primaire. La
présentation, c'est un peu de tout. Des films muets, inconnus, sans titre, rien. Juste quelques images trouvées et mises bout à bout, sans connaître l'histoire. Ah, un film d'action américain, bien entendu. À cette époque, la gauche caviar aime beaucoup les films américains, autant qu'elle déteste les films français. Entre parenthèses, je tiens à dire, c'est que cette salle que je décris est décrite comme ça. Ce n'est pas, c'est de la pure fiction. Le directeur de cette petite salle est un grand gros homme, cheveux châtains, l'air jovial et brouillon. Il vient présenter les films qu'il projette. Quelquefois, à dernière minute, l'on change de programme. Le spectateur qui est venu voir un film en voit un autre sans qu'on l'ait prévenu. Et il le sait que lorsque la projection commence. C'est ce côté bordel qui plaît beaucoup à la jeunesse de gauche. Bordel égale anti-bourgeois, ordre égale bourgeois. Le public est fait de jeunes étudiants glandeurs qui squattent dans le quartier et d'intello caviar qui croient être l'élite et qui s'imaginent que leur goût est le meilleur et que les autres sont des cons, des fachos. Donc c'est eux qui sont dans le vrai et tout ce qu'ils disent est parole d'évangile. Et lorsqu'un réalisateur doit faire un film, pour qu'il soit bon, il doit être fait comme ils ont décidé une fois pour toutes que devrait être fait un film. Nicolas sait quel genre de type il va avoir affaire à des morveux qui se croient le centre du monde avec des idées de gauche, ce qui est pire, car ce sont des futurs dictateurs culturels en herbe. Il suffit qu'un crétin milliardaire les aide pour qu'ils deviennent de vrais dictateurs, et comme tous les dictateurs, ils assureront leur pouvoir au nom du peuple. Il entre dans la salle toute petite, avec un écran minuscule, et à peine 20 spectateurs. Le film que l'on doit projeter, c'est L'homme qui en savait trop. Un homme grand, gros, cheveux gris, habillé d'un costume gris, fripé, se met devant l'écran. Un homme sec, cheveux dégarnis sur le devant, fine moustache, visage osseux, habillé d'un costume noir, dit à Nicolas. C'est le doigt qui va nous parler. Il le fait toujours, avant chaque projection. Le doigt parle. Mes chers amis, ce soir, nous devions vous projeter L'homme qui en savait trop. Mais j'ai perdu les bobines. Je ne sais plus où elles sont. Peut-être sont-elles allées au fond de ma baignoire. Tout le monde rit, monsieur dit à Nicolas. C'est vrai, il est formidable. Il est brouillon. Il stoppe ses films n'importe où, même dans sa baignoire. Quel homme! C'est lui qui détient la culture. Le doigt continue à parler. Alors j'ai trouvé des bobines dans mon salon sur une chaise. Ce sont des bobines que j'aime bien. Je les ai trouvées aux puces chez un marchand de ferraille. Il ne savait pas qu'en faire et souhaitait les brûler. Alors je les ai achetées sans savoir ce que c'était. Et oh, miracle! J'ai vu que c'était des courts-métrages de Laurel et Hardy. Voilà ce que vous allez voir ce soir. Tout le monde applaudit. L'homme dit à Nicolas, quel homme admirable! Qu'est-ce qui sait bien présenter ces films? Nicolas se dit que ça ressemble à une scène de patronage dans un village et dire que c'est plouc, pour eux, c'est de la haute culture. Les courts-métrages passent, ils sont muets, les coupées sont vieilles, les passages sont marrons. L'on rit dans la salle en se disant, c'est formidable, c'est formidable. Nicolas n'y rit pas, car il connaît par cœur ces courts-métrages qui ont passé plus de 100 fois à la télévision. Il les connaît par cœur. Une heure plus tard,
rires, applaudissements. La scène... C'est fini. Les films sont finis. Ils ont tous eu l'impression d'avoir passé un moment privilégié de haute culture. Parce que ces petits films sont passés dans cette salle et présentés par le doigt. Si les mêmes films avaient été passés dans une autre salle ou à la télévision, ce n'aurait pas été de la culture, mais de l'amusement. Mais pour eux, comme spectateurs, dans cette salle, un spectacle amusant sans plus devient grâce à leur aura quelque chose de sacramental qui transforme la moindre banalité en chef-d'œuvre. Tous sortent de la salle heureux. Le monsieur qui était assis à côté de Nicolas en sortant lui demande « Vous voulez boire un verre ? Vous me donnerez vos impressions de ce que vous avez vu ?»« Oui, pourquoi pas ?» Ils entrent dans un café, un peu plus loin, le Moulin Joli. On s'asseoir à une table. Il y a du monde, les gens sortent du spectacle. Le serveur s'avance vers eux. L'homme dit, un whisky s'il vous plaît. Nicolas n'aime pas cette boisson, mais il se dit qu'il doit montrer qu'il est comme lui. Pour lui montrer qu'il est du même bord, la gauche, le whisky, la droite, le champagne. C'est étrange que les intellos de gauche prennent du whisky, qui est très cher. Ils devraient faire comme le peuple, prendre du vulgaire rouge à 12 degrés Marmignac. Mais non. On est de gauche, mais tout de même, on n'a pas été élevé avec des cochons, avec le peuple. Donc, on garde ses distances. On préfère parler avec des intellos bourgeois qui ont fait des études, les écoles, les relations d'un homme de gauche s'arrêtent au professeur. Une fois qu'on leur a amené leur boisson, que Nicolas trouve dégueulasse, l'homme lui demande « Cela vous a plu ?»« Oui, beaucoup. » Et l'homme se met à lui parler de la liberté de ton, du côté social des personnages homosexuels. Nicolas se demande où il a vu homosexuel. On apprend des choses dans les petits films, un bouillon de culture. Puis il demande à Nicolas ce qu'il fait. Nicolas lui dit qu'il avait écrit un livre qui s'est bien vendu et fait un scénario à Hollywood. Que le film a pu se faire à cause de la mort de Matthew. Et maintenant, j'aimerais travailler dans le cinéma. La mise en scène me plairait beaucoup. L'homme lui dit, oui, je vois, mais pour apprendre le cinéma, il faut voir le plus de films possible et en faire une culture. Moi, je suis directeur de la revue Le Monde du Cinéma. Ah, c'est vrai? Comme vous avez de la chance. Je lis toujours votre revue. Et ce ton me plaît. Sa liberté a un côté rebelle. L'homme lui dit, si vous voulez, je peux vous faire visiter le bureau. Oui, je veux bien. L'homme sort son portefeuille et lui tend une carte de visite. Je m'appelle Luc Romain. Venez à 10h demain. Il ne manquerait pas. Luc lui dit, il se fait tard, je dois rentrer, ma femme m'attend. Nicolas se dit, il gratte des yeux dedans pendant que sa femme est à la maison à faire la popote. Oui, vous avez raison, il se fait tard. Ils se lèvent tous deux et sortent du café. Ils se disent au revoir.
Le lendemain, Nicolas va au bureau de la revue, qui se trouve rue de la République, dans un immeuble cossu qui a une banque au rez-de-chaussée. Il est entré dans l'immeuble, regarde les boîtes aux lettres et monte jusqu'au deuxième étage.
Porte droite, il sonne.
Il lui a ouvert un gros homme, la bouche pleine, les cheveux châtains frisés, chandail blanc et pantalon marron.
Désiré.
Luc Romain.
Entrez.
Il entre.
C'est pour toi, Luc.
Un petit couloir carré où il y a quatre portes. La porte d'en face s'est ouverte. Apparaît Luc.
Salut, viens.
Le gros là, c'est Brochard. Brochard. Fait entrer Nicolas dans une petite pièce avec une table. Dessus, une machine à écrire et des gros tas de papier. La pièce n'est pas très grande.
Assieds-toi.
Nicolas s'assoit sur une chaise de cuisine.
Émaillé blanc.
En formica blanc. Et Luc s'assoit à son bureau.
Tu vois, c'est ici que l'on travaille. Pas le luxe.
Nicolas lui dit, ça doit être drôle d'écrire des films sur les films.
Luc lui dit, oui, ça t'intéresse? Écoute, tu vas voir des films que tu veux et tu me fais des papiers comme ça pour rigoler, d'accord?
Oui.
Et Nicolas va voir ses films. Puis, dans sa chambre, il fait un papier. Attention, ne pas résumer l'histoire. De l'histoire, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la simplicité de la mise en scène et le côté social. Critiquer tout ce qui fait le cinéma de qualité, bien fait et qui raconte une histoire. Surtout, être bien méchant avec les films bien faits qui racontent une histoire et qui ont des vedettes comme acteurs. Nicolas écrit quelques articles et les montre à Luc. Luc les trouve bien et décide de les mettre dans la revue.
N'aie pas peur de dire ce que tu penses.
Sois vache, très vache.
Luc lui a donné une carte pour qu'il puisse voir les films gratuitement et une somme modique à chaque papier. Nicolas s'aperçoit très vite que c'est que plus il écrit de choses violentes, plus on est content de lui, alors il y va. Petit à petit, il se fait un nom. Il y a de plus en plus de gens qui le lisent, car ça les amuse. Dans les projections, on le reconnaît. On l'invite à des soirées. Les femmes sont folles de lui. Des femmes très jeunes ou vieilles. Il se laisse flirter. Cela l'amuse. Il lit ses écrits à sa sœur. Il lui raconte sa cour féminine. Mais il lui dit, c'est bien amusant tout ça, mais ce que je veux, c'est faire des films. Et je dois avouer, c'est que j'ai un peu honte de ce que j'écris sur certains metteurs en scène, qu'en réalité, j'aime beaucoup. De temps en temps, il leur envoie des mots d'excuses. Il gagne très peu d'argent, et sa famille qui
qui l'aide à vivre.
Son père est furieux. Il lui dit un soir durant le dîner, « Puisque tu ne veux pas poursuivre tes études, tu n'as qu'à travailler. Je vais te couper les vivres. »
Dans la soirée, Nicolas va voir sa mère qui est dans sa chambre.
Elle est à sa coiffeuse. Il s'approche. Et s'assoit sur un pouf.
Maman, j'aimerais c'est que vous puissiez m'aider financièrement jusqu'à ce que je puisse faire du cinéma.
Elle hausse les épaules et lui dit, c'est stupide. Tu ferais mieux c'est d'aider ton père à l'entreprise. Il est débordé. Et là, tu gagnerais bien ta vie, parce que l'entreprise marche bien.
Nicolas soupire. Bien, mère, je tâcherai de me débrouiller tout seul.
Et il sort de la chambre.
Petit frère de Nicolas, Denis, est un enfant sage qui travaille bien à l'école. Il est aussi beau que gentil. Tous les matins, après avoir fait sa toilette, il va dans la chambre de sa mère se faire câliner, se met au lit avec elle. C'est son petit bijou.
Les parents sont assis au salon, l'un à côté de l'autre, sur des fauteuils. Les enfants sont déjà couchés.
Le père dit, Nicolas me prête du souci. Il perd son temps à écrire des horreurs ou des articles minables dans un journal de 4 sous.
La mère lui dit, ça lui passera, il est jeune.
Oui, mais en attendant, il se fait une très mauvaise réputation. Il fait rire, amuser les vieilles rombières. Il rend furieux les gens du cinéma. Jamais il ne pourra faire une carrière dans cette profession.
Il est jeune, il comprendra de lui-même qu'il a fait une erreur. Surtout, ne lui fais pas la morale.
Le père soupire et dit, j'ai décidé une chose. Je lui donne une pension pendant 2 ans, et après plus rien. Je le mettrai à la porte.
Comme tu voudras.
Nicolas, en plus d'écrire les articles, il essaye d'écrire des scénarios.
Un soir, dans une des soirées où il est invité, durant la soirée, il se trouve face à face avec un homme.
de taille moyenne, large, chauve, le visage dur dans les 50 ans, habillé d'un costume noir et d'un pull blanc. Bonjour, je m'appelle Jean Néjean. Je suis l'ami de l'hôtesse. Elle est folle de moi parce que je suis un voleur.
Un laboratoire.
Cela lui donne des frissons.
Mais oui, vous pourriez y résider.
Qui êtes-vous?
Je
suis Nicolas, celui qui écrit des articles sur le cinéma. Oh oui, je vois. Mais le cinéma, ce n'est pas mon fort. J'aime mieux les livres. J'aime tellement les livres que j'en veux. J'ai même fait de la prison pour ça. Nicolas lui demande surpris. Parce que vous êtes un vrai voleur? Oui, bien sûr. J'ai cambriolé des maisons, vidé des coffres-forts.
Avez-vous déjà rencontré?
Je sais ce que vous allez me dire.
Vous êtes encore plus intéressé par l'argent qu'un Américain.
Parce que, pour vous, c'est quelque chose de mal et de laid. Mais pour moi, le mal, c'est quelque chose de beau et de sain. Oui, de sain. D'ailleurs, j'écris là-dessus. Je continue à voler, pas, car pour moi, voler, c'est de l'art. Lorsque j'aurai quitté mon hôtesse, je la volerai. Oui, je volerai tout ça. Nicolas lui dit, et la morale? Il lui dit, la morale se trouve dans le beau, et le beau se trouve dans le laid. Fais l'amour dans une pistière pleine de merde, avec un gros bien musclé. C'est beau. Et après avoir fait l'amour, le menacer d'un couteau pour le voler, c'est sublime. Vous faites marcher, non? Non, je vous assure, non.
Devant eux, un grand jeune homme mince, des cheveux frisés, basamés, habillé d'un costume noir. Jean crie « Un livre !» Le jeune s'arrête et va vers lui. « Pardonne-moi, je t'avais pas vu. » Jean lui donne une gifle et lui pince le bras. Jean dit à Nicolas « C'est mon amant, j'aime en faire ma chose. C'est normal, puisque c'est mon amant. Je lui apprends un métier de trapéziste. » Je suis son maître.
D'après vous,
je n'y connais rien, mais je lui apprends.
Votre mari soit...
J'en ai assez de tout ça.
De notre
si nous sortions,
vous le croyez, vous
et ils sortent tous les trois.
Je ne l'espère pas, mais je sais que son esprit est si instable, si mouvementé, que j'ai pensé que peut-être...
Ma fille vient...
Nicolas suit Jean qui le mène dans le premier arrondissement, rue des Capucins, rue Sinistre. Là, il est fait rentrer dans un café tenu par des Turcs. Il y a des hommes qui jouent aux cartes. Ils s'assoivent à une table. Jean commande 3 thés à la menthe et leur dit « J'aime cet endroit, ces gens. D'ailleurs, j'ai horreur des gens de ma race. J'aimerais être noir. Je serai toujours du côté des opprimés. N'est-ce pas, Aline, mon chéri ?» Le jeune homme ne dit rien. Jean continue « J'habite une chambre dans un meublé pas très loin d'ici. » Nicolas est fasciné par cet homme qui ne cache rien, qu'il aime le mal. Jean dit, j'aime les voyous et aussi les flics. Un flic bien baraqué, c'est le pied. J'ai vendu des camarades pour un beau corps de flic. J'aime la crapule et je suis aussi une crapule et j'en suis fier. Continue à parler ainsi et se quitte au petit matin, mais décide de se revoir. Thank you. Nicolas se dit que ça pourrait lui donner un sujet pour un film, qui serait un bon personnage. Donc, il se revoit, parle beaucoup de la beauté du mal. Nicolas voit Jean le plus souvent sans un lime. Un jour, qu'ils se promènent tous deux.
Jean est entré dans une librairie. Nicolas l'a suivi.
Jean feuillette un livre. Et tout d'un coup, Jean met un livre sous son pull. Nicolas l'a vu et il sort de la librairie.
Au lieu de voler, tu aurais dû me dire que tu voulais ce livre. Je te l'aurais acheté.
Jean hausse ses épaules et lui dit :
mais j'ai de l'argent. J'en ai même plus que toi. Mes livres se vendent bien. Ils donnent le frisson à ces dames. J'ai volé, c'est pour la beauté du geste. Et c'est tout.
Vous ne pouvez pas enlever la partie et venir dévisser les clous. Parce que ça également, comme c'est une limitation.
Lorsqu'Aline est avec Jean, il se comporte avec lui d'une façon grossière, méchante. Bon, à rien, fumier, ton cul ne vaut rien. Il lui arrive de le cogner et de le pincer. Aline ne dit rien, mais souffre de cette façon de faire. Un soir, qu'ils se promènent sur les quais, tous les trois, Jean marche devant eux. Aline parle tout bas à Nicolas.
C'est encore, c'est rien. Si vous voyez qu'il me traite pendant les répétitions,
Nicolas lui dit, vous n'avez qu'à le quitter.
Je ne peux pas. Je l'aime malgré tout.
Et puis, c'est lui qui m'a sorti de la misère. Nicolas lui dit, t'es sorti de la misère physique pour te mettre dans la misère morale.
Vous avez raison.
Et il sourit à Nicolas qui le traite gentiment. Un soir, qu'ils sont dans un café, Jean est assis en face d'eux. Aline met la main sur la cuisse de Nicolas. Désormais, chaque fois qu'ils peuvent, ils se touchent furtivement, poignée de main, caresse. Un soir, Aline lui dit « J'aimerais te revoir ». Nicolas lui répond « Oui, demain, 20h, rue Saint-Polycarpe ». Nicolas se dit que ce n'est peut-être pas bien ce qu'il fait vis-à-vis de Jean, mais qu'en fait, Jean ne lui est rien. Et le lendemain, à 20h, Nicolas attend Aline. Il arrive essoufflé vers lui. « Salut, salut !» Et il demande « On va où ?» Nicolas lui dit « Je ne sais pas, tu connais un hôtel ?»« Oui, pas très loin là-bas. » Et il s'y dirige. Tout à coup, il voit y arriver vers eux Jean. « Merde !» dit Nicolas. Jean leur dit « Je le savais !» « Alors, petit fumier, hein ? Tu voulais me tromper, hein ? Petite tapette !» Aline baisse la tête. Tapette, va. Et Jean lui donne un coup de poing dans le ventre. Ce qui fait se plier en deux. Nicolas se met entre eux. Non, je suis aussi coupable que lui. Jean, d'un geste, le fait tomber à terre. Et lui dit, sale blanc, te mêle pas de ça. Aline fait le geste de se relever. Jean, d'un coup de pied, le fait tomber à la renverse. Et lui appuie le pied sur la poitrine, puis se couche chez lui, se plaque fortement et lui dit « Tu es à moi et à personne d'autre, tu comprends ? Tiens, regarde !» Il lui met la main entre les jambes et lui caresse ses couilles. « Tu vois ?» Nicolas se relève et crie « Laisse-le tranquille !» Jean lui dit « Mais il aime ça !» Isola se baisse pour dégager Aline. Et d'un geste brusque, Jean se relève, ce qui fait tomber à la renverse Nicolas. Aline est allongé. Il se soulève. Jean lui met le pied sur la figure et lui crie « Mais c'est de la merde ça! Je ne t'ai jamais aimé !» Puis, il enlève son pied. Aline, essoufflée, se relève et crie à Jean. Tu vas voir si je suis de la merde. Il y a un échafaudage contre une maison. Aline monte à l'échafaudage. Nicolas lui crie. Non, Aline. Jean crie à Nicolas. Laisse-le faire. Si ça ne te regarde pas. Aline est en haut de l'échafaudage et crie. Je veux sauter pour te prouver que je t'aime. Jean crie. Vas-y, vas-y. Tu es de la merde. Aline saute. Tombe sur le pavé. Reste ventre à terre, sans bouger. Nicolas court vers lui. Furieux, il se penche, le retourne et voit qu'il est mort les yeux ouverts, le front en sang. Il crie pleurant à Jean. Tu l'as tué. Assassin! Jean s'avance vers lui, veut le prendre. Nicolas se dégage et lui crie non! Jean lui donne un coup de poing qui le met KO. Il se réveille allongé sur un lit de fer. Au plafond, une lampe pend. Assis sur une chaise, à côté du lit, se trouve Jean, qui le regarde.
« T'es bien réveillé. »«
Qu'est-ce que je fais ici ? Vous me tenez prisonnier ?»«
Non, je te veux, tu me plais. »«
Nicolas lui dit, vous me dégoûtez. Après ce que vous avez fait à Lim, vous êtes ignoble, un criminel.
Jean lui dit, non. Et Halim était à moi. Je pouvais en faire ce que je voulais.
Même le tuer?
Oui.
Il s'est tué pour vous?
Oui. Et il en était heureux. Il voulait être ma chose. Il l'a été jusqu'au bout. Il voulait être à moi.
Vous me faites horreur.
Il se lève. Il se dirige vers la sortie de la pièce. Jean le rattrape et lui barre le passage.
Je t'ai dit que tu étais à moi comme un lime.
Comment? Laisse-moi passer.
Non.
C'est ce que nous allons voir.
Il essaie de dégager Jean qui tient le bras et rit. Lui dit, j'aime quand tu es en colère.
Laisse-moi passer.
Nicolas fait le geste de lui donner un coup de poing dans le ventre. Jean lui bloque le poing et lui donne un baiser rapide sur les lèvres. Nicolas, d'un geste brusque, dégage la main. Jean rit. Nicolas, furieux, tourne en rond dans la pièce. Jean le regarde, les bras croisés, posté devant la porte.
Nicolas, furieux, d'un geste brusque, prend la lampe de chevet, qui est une petite enfer, et jette. Le geste la défait de la prise, et jette la lampe sur Jean. Qui n'a pas eu le temps de la sortir, de se sortir. Ça a été tellement vite. Il est à terre au milieu des débris de la lampe, les bras en croix, le sang sur les tempes.
Nicolas court vers lui, se penche. Merde, il est mort. D'un coup de pied, il arrive à ouvrir la porte. D'un vieil immeuble
noir et qui sent le moisi. Une fois dehors, il court chez ses parents. Se déshabille, prend sa douche, et se couche.
Faites en sorte à ce que l'on ne m'ait pas vu.
Il reste une semaine tranquillement chez lui, sans oser sortir. Dans les journaux, on parle de rien. Nicolas se dit que l'histoire a dû être classée et que tout le monde doit être content d'être débarrassé de ce salaud. Il a du remords et se pose des questions. Il pense au bien, au mal. Qu'est-ce que le mal? Est-ce que le mal peut être bien, beau et pur? Le crime, la pourriture, la délation peut-elle être comparée, comme le pensait Jean, à des arts? Oui, bien sûr, une belle œuvre peut avoir comme décor un endroit fait de pourriture. Des personnages aussi peuvent être des gens ignobles.
Mais dans la vie, l'ignominie peut-elle être vue comme une œuvre d'art? Et si on met à égalité le bien, le mal, s'il n'y a plus de différence entre les deux? Nicolas se dit que non, il faut une morale. Alors s'il faut une morale, Jean a-t-il mérité sa mort? S'il n'a pas mérité, c'est qu'il n'était pas coupable de la mort d'Alim. Mais il est coupable de cette mort. Il a humilié Alim, traité comme de la pourriture, fait sa chose, son esclave. C'est un crime tout ça. Oui, oui, Jean a mérité la mort. C'est un sadique dangereux, violent. Il a voulu me séquestrer. Oui, il a mérité la mort. Pourquoi Alim n'a-t-il rien fait pour se défendre? Pourquoi s'est-il laissé dominer? Alim, désiré, avait besoin d'un protecteur, d'un quelqu'un qui l'aide à vivre. Il croyait que c'était Jean, et s'est donné à fond à lui.
Radio Canyon vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, film intérieur dont c'était la 6e partie. Production, mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
Merci.